Bonjour Luc Carvounas.
Bonjour et bonne année à tout le monde.
Meilleurs vœux en effet, merci. Vous êtes l'un des 5 candidats déclarés et le premier d'entre eux pour prendre la direction du Parti Socialiste. Les autres sont Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Emmanuel Morel et depuis ce matin, Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie, qui d'ailleurs n'y va pas avec le dos de la cuillère dans les colonnes du Parisien. Je la cite, je conteste de A à Z les modalités d'organisation de ce congrès de confiscation dans ce qui n'est plus un parti, mais une petite mafia politique avec ses parrains, ses lieutenants, ses exécutants. J'ai découvert, dit-elle, qu'il y avait eu un traficotage des statuts au dernier moment pour changer les règles du jeu dans l'objectif de reconduire la même aristocratie politique. Vous comprenez de quoi elle parle ?
Moi, je comprends le ressenti de Delphine Batho, parce que depuis des mois maintenant, des semaines, on lit dans la presse que quelques-uns se réunissent quasiment en conclave pour décider à la place des militants et des militantes. Donc je peux comprendre ce ressenti de dire on est en train peut-être quelque part de nous enlever la démocratie interne et le choix dans la campagne qui est ouverte aujourd'hui. Je constate surtout qu'en fait, toutes les candidatures qui se sont déclarées depuis une petite semaine maintenant sont des candidatures, ils le disent d'ailleurs tous, quasiment par défaut. Faux parce qu'ils voulaient soutenir tous Najat Vallaud-Belkacem. Moi, je suis parti en campagne très tôt parce que je voulais...
Vous auriez été candidat même si elle l'avait été.
Mais moi, je suis en candidat depuis des mois parce que je veux proposer aux militants une offre politique claire de ce que nous devons devenir, nous les socialistes. Je fais un tour de France, Frédéric Rivière. Je vais voir les militants dans les territoires. J'étais encore il y a quelques jours avec la Fédération Socialiste de Martinique. Voilà, je suis allé voir aussi les Outre-mer. C'est important. Et on ne peut pas s'improviser dans cette compétition qui est importante au moment où nous nous retrouvons mal en point, très mal en point, avec des hésitations et avec une ligne politique qui ne soit pas claire.
Vous citez François Mitterrand, puisque, comme lui, vous dites vouloir rassembler d'abord les socialistes et ensuite la gauche. Mais, précisez-vous, ce qui me rend différent des autres candidats, c'est que je ne pense pas forcément que le PS doive être central dans cette union. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que le PS pourrait n'être plus qu'une composante d'une vaste fédération de la gauche ?
Cela veut d'abord dire que la méthode que je m'applique dans les propos que je veux tenir, c'est d'avoir de l'humilité. De l'humilité. Nous sommes passés de près de 300 députés à moins de 30, même s'il y a un foisonnement dans ce groupe de candidatures, et c'est plutôt sain pour un appareil politique que l'on dit ou certains voudraient voir mort, ce qui n'est loin d'être le cas. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, les socialistes que je rencontre, qui viennent par centaines dans nos réunions, ont envie encore que l'on dresse un cap, une espérance, ont envie que l'on soit une opposition claire. C'est quoi une opposition claire ? Je n'ai pas eu à tergiverser, c'est pas ma méthode, quand j'ai voté contre le discours de politique générale d'Édouard Philippe, parce que on ne découvre pas ce qui est en train d'être mis en œuvre dans ces politiques publiques à l'Assemblée nationale. Tout était dans la feuille de route énoncée à ce moment-là à l'Assemblée nationale. Donc il faut être clair dans l'opposition que l'on veut avoir, et puis il faut être aussi clair politiquement sur cette volonté de vouloir rassembler sa famille, comme vous l'avez souligné, c'est important, sans vouloir découper des têtes, comme je le vois ici ou là, et puis ensuite vouloir discuter avec la gauche. Moi, je parle de la gauche arc-en-ciel. Je parle de cette gauche qui peut s'appuyer sur le rose-rouge-vert, les partis politiques, mais plus seule, avec les associations citoyennes, avec les syndicats, avec les organismes socioprofessionnels, tout ce qui nous crante dans les territoires. Vous savez, les territoires, j'entends que tout le monde en parle. Mais moi, je n'en parle pas de manière incantatoire. Dans le texte que je porte, je fais des propositions concrètes, notamment sur la décentralisation économique, où je voudrais que les grandes administrations puissent aussi demain se répartir dans le territoire national afin de pouvoir relancer notre économie.
Vous ne croyez pas du tout à l'idée des gauches irréconciliables qui avait été théorisée par celui qui était à l'époque votre ami, je ne sais pas s'il l'est encore, Manuel Valls.
Vous savez, on a tous notre part, je le dis, dans le travail qui nous attend, il faudra que l'on fasse le devoir d'inventaire, le bilan de tout ce qui a bien été ou mal marché. Moi, mon devoir d'inventaire, me concernant, j'ai commencé à le faire lorsque j'avais signé cette tribune sur la déchéance, que j'ai regretté ensuite, pour venir en aide au président de la République sur les propos qu'il avait tenus au congrès de Versailles. Je profite de cette antenne pour dire que c'était une erreur. Mais fort de nos erreurs, et des miennes en particulier, cela m'a permis de ne plus être un béni. Oui, Frédéric Rivière. Et sur les gauches irréconciliables, ça a été un sujet de rupture avec Manuel Valls. Je suis le premier à être monté à la tribune du Conseil national en juin 2016 pour réfuter cette notion de gauche irréconciliable. Vous voyez, quand on aspire à devenir patron d'un parti politique comme le Parti Socialiste, il faut avoir le courage de dire à l'antenne quand on s'est trompé. Et il faut aussi avoir le courage de pouvoir dresser, fort de ce bilan, une perspective. Et c'est ce que je veux partager avec les militants.
Julien Drey, dont on ne sait pas encore s'il sera candidat, mais enfin qui semble y penser, a proposé ce week-end une coprésidence du PS, un tandem composé d'un homme et d'une femme. Ça changerait tout, selon lui, dans la direction du parti. C'est une idée qui vous paraît intéressante. Ça.
Il a raison de poser la question d'une nouvelle gouvernance. C'est d'ailleurs pour cela que moi, je propose que le premier secrétaire que je veux devenir ne soit plus un homme providentiel. Et c'est pour ça que dans la proposition que je fais aux militants, ce n'est pas un ticket. C'est un premier secrétaire national avec trois premiers secrétaires nationaux délégués, l'un à l'égalité femmes-hommes, l'autre à la jeunesse et l'autre aux Outre-mer. Parce que ce sont trois sujets qu'on ne peut pas laisser dans les arcanes du parti sans qu'ils soient traités de manière majeure. Et puis j'ai une autre proposition. Que la motion qui arrivera, j'espère, derrière moi, eh bien, le trésorier de main nationale sera issu des rangs de la motion numéro 2. Parce que, comme au Parlement, moi, je veux que ceux qui seront la minorité puissent être en situation de gérer la trésorerie et les fameux 45 millions d'euros dont tout le monde parle.
La question des migrants est au cœur du débat public. Le prix Nobel de littérature Jean-Marie Leclésio parle d'un déni d'humanité insupportable, évoque des comportements dégueulasses, hein, je le cite. Julien Drey a employé le terme de rafle ce week-end. Sur quelle ligne êtes-vous sur ce sujet?
Moi, je suis très préoccupé parce que aujourd'hui, vous le voyez bien, y compris Médecins Sans Frontières, encore récemment, qui a quitté la table des discussions parce qu'il voit sur le terrain ce qui est en train de se passer. Frédéric Rivière, ce sont des tentes qui sont lacérées, ce sont des couvertures qui sont jetées à la rue pour que les personnes concernées ne puissent plus être au moins au chaud et se protéger entre eux. Je suis très préoccupé parce que tous les débats que j'entends là, en fait, nous assistons au retrait de tout le tissu associatif qui travaille sur le champ des migrants et de l'accueil universel, y compris le secours catholique. Les feux sont rouges de toutes parts. Et pour autant, j'ai un ministre de l'Intérieur qui nous dit encore que son texte est équilibré. Enfin, ni vous ni moi ne l'avons lu ou vu pour voir s'il est équilibré ou pas. Et en même temps, puisque c'est leur expression consacrée, ils veulent désormais en fait gérer les migrants comme des stocks, comme des flux. Hein, comme à la banque, en fait, avec des pertes et des profits. En fait, on est en train de juste parler d'hommes, de femmes et d'enfants. Et ces hommes, ces femmes et ces enfants, j'entends la question de la RAF, c'est parce que désormais, on va pouvoir rentrer dans les logements dits d'urgence pour pouvoir, vous savez, les lister,
oui,
les
c'est
fichiers.
La circulaire de
et,
décembre.
Et de pouvoir savoir qui, finalement, a le droit ou pas d'être accueilli dans notre pays. Et je n'entends à aucun moment dans les débats actuels sur la loi asile et migrants la question des migrants climatiques. Hein, je vous ai dit, j'étais récemment aux Antilles. Irma a bien provoqué des migrants climatiques qui se sont déplacés vers la Martinique ou vers la Guadeloupe. De cela, je n'entends pas parler. Vous voyez, un parti politique demain, comme je le veux pour le Parti Socialiste, c'est un parti qui sera en capacité de poser des grands débats, et notamment au travers des conférences de consensus que je propose aussi.
Merci Luc Carvounas. Bonne journée.